おかしんおかしんおかしん。
Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse ce vendredi 26 septembre 2008. Trois thèmes sont à la une de cette émission. La démission du Premier ministre Antoine Gizenga, déposée hier jeudi à Kinshasa auprès du chef de l'État. Notre second thème abordera la signature cette semaine par le chef de l'État de plusieurs ordonnances portant nomination dans la territoriale, notamment des maires, commissaires de district, bourgmestres ainsi que des administrateurs des territoires. Enfin, dans notre troisième thème, nous parlerons de l'attaque des rebelles du Bandai et les rats à Dungu dans la province orientale, ainsi que des affrontements nord-kivu entre l'armée nationale et le CNDP de Laurent Kunda. Comme invité ce soir, nous avons trois confrères, Benoît Kambéré, rédacteur en chef du magazine Écho de Grand Lac, Joaquin Diana Gikoupa, journaliste au desk politique du quotidien L'Avenir, Paris Saint-Cité à Kinshasa, et au téléphone depuis Mbandaka dans la province de l'Équateur, Henri Gérard Egebe Mwangando, rédacteur en chef de la RNC Mbandaka. Bienvenue à tous. La démission hier jeudi du Premier ministre Antoine Gizenga, les nominations dans la territoriale, ainsi que l'attaque cette semaine des rebelles ougandais de la LRA à Dungu dans la province orientale, ainsi que les affrontements entre l'armée nationale et les troupes du CNDP de Laurent Kunda, comment ces faits ont été abordés cette semaine par la presse kinoise, notre confrère Jean-Didier Ogobani a lu pour vous ces journaux.
Le Premier ministre Antoine Gizenga présente sa démission au chef de l'État. C'est la une du bulletin de ce vendredi de l'agence congolaise de presse. Même son de cloche pour l'Observateur, du même jour qui titre « Antoine Gizenga rend le tablier ». Le quotidien de l'avenir, colonel Ebea de la commune de Lagombe, signale que le Premier ministre évoque le problème de santé. Gizenga démissionne, des questions sans réponse au sein du PALU. C'est ce qu'on peut lire à la première page du quotidien L'Avenir de ce jour. Encore le confrère, Antoine Gizenga laisse pourrir la situation au sein du PALU, notamment le cas Mayobo resté en suspens. Pourquoi Gizenga a-t-il démissionné? Le quotidien Le Palmarès d'aujourd'hui vendredi répond en titrant « On en sait un peu plus désormais 24 heures après. Révélation sur les raisons profondes de la démission de Gizenga. » Pour le confrère, l'Assemblée nationale s'attendait à interpeller le gouvernement. Gizenga quitte la primature, Kabila à la croisée des chemins. C'est l'annonce de la référence plus. Pour la consoeur, la bataille est ouverte au sein de la majorité pour la direction du gouvernement. Le chef de l'État doit choisir entre la fidélité aux accords conclus avec les PALU et les appétences de son clan politique. Voici le nouveau bourgmestre des 24 communes de la ville de Kinshasa, titre Le Palmarès. Le chef de l'État a signé mercredi dernier 4 ordonnances portant nomination des maires, des commissaires des districts, des bourgmestres et leurs adjoints. Province orientale, deux voix s'élèvent contre l'enlèvement des écoliers par la LRA à Dungu, titre Le Potentiel dans son édition de jeudi dernier. Avec cet enlèvement, l'UNICEF craint le fait de voir ses enfants être enrôlés dans les rangs des groupes armés, comme ce fut le cas lors de la rébellion de 1998. Toujours dans le même chapitre, la référence plus dans sa publication du même jeudi titre Trouble à l'Est, l'Amérique officielle pour l'application du programme Amani. Le confrère de l'avenir Victoire affirme que les États-Unis, par la bouche de Robert Wood, porte-parole adjoint du département d'État, condamnent la reprise de la lutte armée en RDC et demandent à toutes les parties de cesser immédiatement les hostilités. Voilà tout pour ce soir, Claude Kent.
Merci beaucoup Jean-Didier Ogomani pour cette revue de la presse. Maintenant que vous savez comment la presse chinoise a abordé ces différents thèmes, passons directement à notre premier thème. Nous vous le disions en titre, évoquant des problèmes de santé, le Premier ministre Antoine Gizenga a déposé hier jeudi sa démission auprès du chef de l'État. Écoutons Antoine Gizenga au cours de sa déclaration faite hier jeudi à la télévision nationale, propos recueillis sur la RNC par notre confrère René Capita Pélézon.
On peut aujourd'hui affirmer que le pays commence à reprendre le bon cap et à connaître une vraie dynamique de redressement et de refondation. Il faut tenir bon et avancer avec détermination. Cependant, pour tout homme, même si l'esprit peut encore être sain et alerte, le corps physique a ses limites dont il convient de tenir compte. C'est pourquoi, après près d'un demi-siècle de lutte pour la cause nationale et plus de 600 jours d'exercice de fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai décidé en ce jour de présenter ma démission de ce poste auprès du président de la République, chef de l'État. J'ai déposé la lettre y afférente ce jour à 10 heures. Nous aurons la réponse du président de la République lorsqu'il lui plaira de nous la faire savoir.
Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je me tourne vers d'abord Diana Gikopa. Bonsoir. Vous êtes journaliste au sein du desk politique du quotidien L'Avenir, paraissant ici à Kinshasa. Votre réaction par rapport à cette démission, qui est quand même une surprise, parce qu'aucun confrère dans la presse écrite n'a titré sur cette démission un jour peut-être ou une semaine avant cette démission. Ça a pris de surprise, de coup, toute la presse congolaise. Pas de scoop.
Tout à fait, c'est une surprise dans la mesure où, même si à chaque rentrée parlementaire, et les parlementaires ne jurent que sur le départ du Premier ministre, ce n'est pas la première rentrée, donc cela n'augurait pas la démission du Premier ministre. Ce qui est arrivé a été effectivement une surprise. La preuve, c'est que vous l'avez dit, aucun saint-ligné n'a réussi à avoir un scoop à ce sujet. Donc, mais notre avis sur cette mission, c'est que le Premier ministre a bien réfléchi et les raisons qu'il avance, nous pouvons épingler les raisons évidentes, celles qu'il a avancées, qui sont des raisons qu'on ne peut pas nier. Il dit, même si l'esprit est encore en place et tout ça, mais le corps a ses limites. En privé, à certains, il aurait dit que, bon, parce qu'il y a des gens qui disent que lorsqu'il a pris les fonctions en février, il savait bien qu'il avait cet âge-là. Mais oui,
en février 2007.
Oui, justement, mais parce qu'à l'époque, il avait une autre conviction, c'est qu'il pouvait se reposer sur les autres et devenir le coordonnateur, c'est-à-dire celui qui donne un peu d'impulsion. Mais il s'est rendu compte qu'on ne peut jamais bien faire une chose qui, en s'impliquant parfois soi-même, mais lui, il ne peut pas s'impliquer compte tenu de son âge. Et il y a d'autres raisons. Si j'ai dit que le fait qu'il y ait cette agitation sociale, le fait qu'il y ait cette campagne malveillante à son sujet, que ce soit au Parlement, que dans une certaine opposition, dans une certaine rue,
c'est même au sein de l'AMP, il y a quand même une voix virulente. On a entendu Kamere sur Radio Capi,
vis-à-vis
du gouvernement.
Justement, j'ai dit que c'est une campagne malveillante dans la mesure où les gens qui la disent sont des intellectuels, ils y mettent de la malhonnêteté intellectuelle parce qu'ils savent que le Premier ministre a fait le travail comme il devrait le faire. Dans le cadre, il n'a pas été seul, il a été avec toute la majorité, et que son travail, nous avons un bon juge qui est le Fonds monétaire international, qui a eu un jugement tout à fait différent de celui de parlementaire. Et ce curieux, c'est ça ou c'est aussi une surprise? C'est juste au moment où le FMI estime que le gouvernement a bien travaillé, il a posé des bases pour que le pays puisse fonder son économie, c'est juste à ce moment que le Premier ministre démissionne.
Mais les Congolais ne le pensent pas, leur situation sociale ne s'est pas vraiment beaucoup améliorée, il y a des grèves par-ci par-là, du personnel de santé, des enseignants, rapidement.
Et tout à fait, quand vous avez des enfants qui dorment à la Belle Étoile, et même si vous avez une maison, vous avez commencé la fondation, vous construisez pour les enfants, ils sont à la Belle Étoile, ils ont raison de se plaindre, ils diront, mais puisque le papa a commencé une maison, il y a déjà une fondation, et ils n'auront pas la pluie sur eux, et le froid sur eux, le froid est là, mais c'est, il faut être maintenant réel, c'est pour voir que c'est vrai, nous souffrons aujourd'hui, mais il y a un phare qui s'allume au bout du noir.
Merci beaucoup, Diana Gikopa. Je me tourne maintenant vers vous, Benoît Cambéré. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Écho de Grand Lac, paraissant ici à Kinshasa, mais distribué aussi à l'est du pays. Votre réaction par rapport à cette démission surprise, quand même, hein?
Démission surprise, bah écoutez, surprise peut-être par le fait que effectivement la veille il présidait un conseil des ministres et le lendemain à 10h il présente sa lettre de démission au chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas encore répondu à cette lettre, mais bon écoutez, je ne pense pas que le chef de l'État va s'opposer à ce que le Premier ministre aille se reposer.
Pourquoi ?
Il a évoqué des raisons de santé. Comme si la veille venait d'avoir son check-in du médical et voilà, il se réveille et dit qu'il démissionne. Je crois que le Premier ministre a été démissionné, tout simplement, compte tenu de ce qu'il attendait au Parlement.
Démissionné par qui ?
Démissionné par les événements, démissionné par l'épée de Damoclès qui est sur sa tête depuis les premiers 100 jours.
C'est quoi cette épée de Damoclès ?
On a entendu les gens de l'AMP, disons de la coalition au pouvoir. Maintenant, ils ont dit qu'ils ont donné un sursis parce que dès les premiers 100 jours, on a vu de quoi était capable le Premier ministre Gizenga. Et s'il a eu un sursis jusqu'à totaliser 600 jours, c'est tout simplement parce que la coalition au pouvoir le ménageait, la coalition au pouvoir espérait que quelque chose de mieux pouvait venir, mais là, la patience était à bout. D'ailleurs, il y en a qui ont dit que la démission est venue trop tard. Non, on l'a démissionné tout simplement parce qu'on ne pouvait pas continuer à soutenir à bout de bras un gouvernement, un chef de gouvernement qui, on ne va pas évoquer tous les déboires, tous les échecs qu'il a eu. Non, écoutez, la situation sociale du pays aujourd'hui, la guerre à l'Est, on n'a jamais entendu parler d'ailleurs de cette situation. C'est comme s'il n'était au courant de rien.
C'était lui qui gérait cette guerre à l'Est.
Justement, non, en tant que
premier ministre. Ce n'est pas le chef de l'État ou le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur.
Justement, c'est pour dire qu'il n'avait pas, il ne faisait pas son travail. Si le chef de l'État était obligé de descendre sur le terrain, d'impulser, c'est tout simplement parce que le Premier ministre était malade, prenons ça comme ça, et que, bon, il ne suivait plus. Alors, le chef de l'État, bien que c'est un régime semi-constitutionnel, en fait, c'est le Premier ministre qui devait répondre devant, on a vu, toutes les interpellations et tout le reste. Le Premier ministre était carrément absent.
Merci.
Et qu'il parte, bon, écoutez, certains diraient bon débarras.
Merci beaucoup, ça s'engage pour vous-même, Benoît Cambéré. Nous avons également en ligne téléphonique depuis Mbandaka, dans la province de l'Équateur, notre compère Henri Gérard Egebe Mwangando. Bonsoir Henri.
Bonsoir.
Vous avez suivi le vent Benoît et Joachim Diana, Guy Koupa. Votre réaction par rapport à cette démission?
Je voudrais rejoindre Benoît dans ce que tu disais tout à l'heure. Parce que la démission de Kizenga ne surprend pas. Moi, je suis étonné qu'on dise que non, il n'y a pas eu de fin lumière qui pouvait savoir qu'il allait démissionner. Mais il suffisait simplement de suivre l'émission spéciale Dialogue entre Congolais du président de l'Assemblée nationale pour se rendre compte que le gouvernement était démissionnaire. Et le président Vital Kamerhe l'a dit à son âge que s'ils ne sont pas parvenus à faire partir Kizenga à temps, un mois, tout ça, c'est parce qu'il fallait éviter de déstabiliser les institutions. Mais ils se sont rendus à l'évidence que ça n'allait pas, qu'il fallait le démettre. Et je crois que si le Premier ministre a démissionné, c'est par dignité, pour éviter qu'il soit mis de côté par l'Assemblée. Et il a dit non, faisons en sorte que l'on dépose notre démission parce que c'était prévisible. Et le président de l'Assemblée l'a dit sans embâche. Donc je ne peux pas penser qu'on dise que non, on ne s'y attendait pas. Moi j'ai suivi l'émission spéciale, le dialogue avec le président de l'Assemblée. Donc c'était
avec Vital Kamerhe.
Vital Kamerhe, c'est ce que je dis exactement. Donc, il a dit sa zombage que non, ils allaient démettre le gouvernement. Et s'ils n'avaient pas fait à temps, c'est parce qu'ils craignaient de déstabiliser les institutions. Il fallait encore laisser, parce que c'était la coalition, après les élections, il fallait peut-être respecter les engagements. Mais on se rend aujourd'hui que non, le patriarche, l'âge, il ne pouvait pas. Et lui-même l'a dit, à cause des limites de sa santé, de son corps physique, il l'a rendu. Mais en toute réalité, c'est que les Congolais devaient s'attendre au départ de ce gouvernement qui a montré ses limites.
Il y a quelques réactions des acteurs politiques. Il y a par exemple Koya Diallo, qui est secrétaire exécutif adjoint de l'Alliance de la majorité présidentielle, qui a fait alliance avec le PALU, justement. Lui, il affirme que c'est la concertation ANP-UDEMO-PALU qui fera sortir prochainement un Premier ministre. C'est une décision qui ne changera rien, d'après Valentin Moubaquet, président du comité national de l'UDPS. pour cause, les choses se passent au-dessus de la tête de Gizenga et il craint que, lui, Valentin Moubaké, craint que les choses se passent ainsi pour son successeur. Quant à l'UDEMO, dans une déclaration faite hier à leur siège de Kinshasa, ils prennent acte de cette démission. Ils se prononceront prochainement. Voilà, donc, mais Diana, Gekoupa, je reviens vers vous. Est-ce que finalement, ce sont, d'après vous, les raisons de santé qui ont poussé Gizenga à démissionner ou on peut avancer certaines autres raisons, lesquelles, par exemple?
J'ai dit exactement.
Est-ce qu'il a été empêché, c'est parce qu'il était empêché de travailler, c'est parce que, comme l'a dit Valentin Moubaké, les choses, les décisions s'est prenées au-dessus de lui?
Je dirais ceci, que les raisons que le Premier ministre avance, c'est-à-dire les raisons d'âge, ce sont des raisons réelles. Ce sont des raisons réelles. Mais j'ai dit aussi que je mentirais si je ne disais pas que le Premier ministre a été aussi attentif à tout ce qu'il y a eu comme campagne malveillante à son sujet. Parce que c'est anormal qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est originaire de l'Est du pays dise impute la reprise de la guerre ou la guerre au gouvernement à Kinshasa. C'est tout à fait de la mauvaise foi. Et cette guerre date même de l'époque où nous avions 1+4, de l'époque où nous avions des premiers ministres comme l'actuel président du Sénat. Mais ce n'est pas une guerre qui date du jour. Cette situation-là, est-ce qu'elle dépend vraiment du gouvernement de Kinshasa? Est-ce qu'il suffit que le premier ministre multiplie des meetings à Kinshasa pour la guerre? C'est de la mauvaise foi.
Mais cette campagne d'intoxication-là, elle vient de qui, d'après vous?
Elle vient justement à qui profite le crime, c'est-à-dire au sein de la majorité présidentielle. C'est la guerre au pouvoir, c'est tout simplement ça.
Parmi les potentiels candidats.
Je vous dis justement qu'il y a des gens qui, avant même que Gizenga soit à l'œuvre, qui n'étaient pas d'accord que ça soit cela. Même déjà, avant même qu'on puisse faire cette alliance par l'eau et tout ça, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Mais tout remonte de plus loin. Il y a des gens qui estiment dans la majorité que le pouvoir, c'est leur affaire, c'est leur bien, c'est leur bras, et tant qu'ils y sont, ils doivent en profiter. Il y en a beaucoup. Et donc, il y a eu tellement cette campagne qu'aujourd'hui, le Premier ministre, compte tenu de ça, si il n'avait pas cet âge-là, il pourrait se dire, en tant que jeune, encore avec cette comportement fou, il pouvait encore se jeter dans la bataille avec le Premier ministre. Maintenant, bon, compte tenu de cela, et aussi pour lui, c'est un pavé dans la mare, dans ce sens que nous allons voir. Et comme c'est que le contraire, quand même, vient de dire ici, et maintenant, je viens d'un parti, on aura un autre Premier ministre, nous estimons que la guerre à l'Est va cesser, les enseignants vont reprendre le cours, et tous les problèmes qui s'opposent au pays vont être résolus. Mais c'est voilà, pas du chemin, c'est du chemin. Et c'est là, un peu, en quelque sorte, mon père qui a raison.
Merci, on va voir alors ce qui va se passer. Je me tourne encore vers vous, Benoît Cambéle, mais aujourd'hui, le Premier ministre a démissionné. On attend bien sûr que le chef de l'État donne
son quitus.
Son quitus. Qu'est-ce que
ça m'étonnerait qu'il refuse.
Oui, vous l'avez déjà dit. Qu'est-ce que Antoine Gizenga avait promis aux Congolais lors de son investiture en février 2007, qu'il a réalisé et qu'est-ce qu'il n'a pas réalisé d'après vous?
Bah, écoutez,
sur le plan social, par exemple.
Bah, sur le plan social, il a même fait une boutade pour répondre un peu à certains, pour ne prendre qu'un seul exemple, parce que il a tablé son discours sur les cinq chantiers, il a tablé son discours sur les cinq chantiers, son programme sur les cinq chantiers. Jusque-là, je crois qu'on peut se poser des questions. Il a tablé son discours sur, pour répondre à une boutade des députés du MLC, par exemple, que lui était capable d'aller au-delà de Mboudi et que non, on n'a rien vu. Non, ne nous voilons pas la face. Le bilan.
Mais on a quand même vu des tracteurs qui sont arrivés ici, les Chinois qui sont en train de prendre des mesures, qui sont en train de faire des études.
Du chef du Premier ministre.
On a vu des tracteurs qui vont lancer justement les cinq chantiers dont vous parlez.
Oui, lancer les cinq chantiers. Bon, ça fait des mois qu'on attend qu'ils soient lancés. En tout cas, ce n'était pas le Premier ministre qui était. On a vu, on a même traité certains.
C'était pendant son règne.
Oui, pendant son règne, on n'a rien vu justement. On n'a rien vu. On n'a pas vu un seul ministre être sanctionné. On n'a pas vu des suivis des mesures qui ont été annoncées. On n'a rien vu. Et voilà. Quoi.
Merci beaucoup. Est-ce que vous partagez le même avis que Benoît Cambéré, Henri Gérard et Guédé? Vous êtes dans l'Équateur.
Oui, bien sûr, bien sûr. Entre nous, c'est, nous sommes Congolais. Parfois, souvent, quand j'interviens, c'est pour dire que le nationalisme, le patriotisme doit nous pousser à reconnaître que ça ne va pas. Et il faut le dire clairement. Il faut éviter des sentiments d'appartenance à ceci ou à cela. Aujourd'hui, tous les Congolais doivent reconnaître que non, ça n'a pas marché avec le gouvernement Kizenga. Il faut une paix de réchange. Donc, si la situation est telle, bon, il faut que ça arrive.
Rapidement, on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, vous dites ?
Rapidement, on n'a plus beaucoup de temps.
Donc, je disais que ça doit être comme ça. Et certainement que dans l'AMP, qui est majoritaire, doit désigner un autre formateur du gouvernement ou un autre premier ministre. Mais nous voudrons qu'à ce niveau, qu'on prenne quelqu'un qui soit à mesure de prendre à bras le corps tous les problèmes que connaît, que connaît le Congo.
Voilà.
Il n'y a pas que la situation sociale et tout ça, mais il y a aussi la guerre à l'Est, il y a un peu partout, en province orientale et tout ça. Donc il faudrait que quelqu'un qui soit à même d'assumer ses fonctions de premier ministre et qui fait quelque chose.
Mieux que Gizenga.
Oui, bien sûr.
Merci beaucoup. Donc, puisque vous parlez du remplaçant futur de Gizenga, le Palou, dans un communiqué rendu public hier, a annoncé la désignation dans les prochains jours de son candidat. Diana Gikoupa, vous êtes journaliste au sein du desk politique du journal du quotidien L'Avenir, proche de la majorité au pouvoir. Finalement, peut-être un petit mot d'abord par rapport au bilan de Gizenga, puis la succession de Gizenga. Il y a plusieurs noms qui se sont vraiment en une minute, là, on a vu beaucoup le bilan de Gizenga. Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait par rapport à ce qu'il avait promis?
J'ai dit ceci, que si, par exemple, la dernière mission du FMI qui était ici avait fait un rapport disant que le gouvernement n'a rien fait, tout le monde, tout le commentaire irait dans ce sens-là. Et on prendrait le FMI à témoin. Et maintenant, puisque le FMI dit que le gouvernement posait des véritables bases pour aller demain, même lorsque le confrère dit qu'il avait promis d'aller pour... Il avait dit, si nous gérons bien, et que nous essayons, nous pourrions faire mieux que nous. Il n'a pas dit qu'on va faire mieux que nous. Ça, c'est de la caricature. On ne peut pas faire des choses comme ça. Et moi, à cette place, lorsqu'on a des gens qui ne peuvent, lorsque là, on n'a même pas déjà, qu'est-ce qu'on attend du prochain premier ministre? On risque de prendre le même et de recommencer, même puisque la situation du Congo va rester la même.
Ton bilan est positif, d'après
le bilan. Et si je m'en tiens compte à la macroéconomie, hein, ce qui concerne l'inflation, parce que le thermomètre semble-t-il sur l'EFMI, alors je pense que...
Mais aussi la bouche, hein, le ventre des Congolais.
Je lui dis que bientôt, vous savez qu'à l'époque, Kengwa Dondola, il avait fait de la rigueur. Et en un moment, les membres du comité central lui ont dit qu'on ne mange pas la rigueur, laissons tomber. Et on a laissé tomber, parce qu'on est allé.
Voilà.
Alors, en ce qui concerne la désignation, oui. Les politiciens...
Est-ce que l'AMP va respecter l'alliance qu'elle avait conclue avec...
Il y a, dans ce domaine, il y a, si les gens étaient honnêtes, les gens diraient, bon, voilà, et Gizenga a été élu sur base d'un accord et sur base de cet accord qui le présente. Et les gens sont libres aussi de dire cet accord-là, ça ne sert plus à rien puisque on a traversé la rivière brûlant le vaisseau.
On a entendu M. Mbou hier dans le dialogue entre Congolais hier jeudi dire qu'il faut quelqu'un qui soit aussi capable de maîtriser la situation à l'est du pays.
Mais justement, ce quelqu'un-là ne peut venir que du côté des gens qui sont les plus de Jupiter, c'est mieux.
Voilà, merci beaucoup. Un mot par rapport à toutes ces ambitions qui se manifestent en coulisses par rapport au probable remplaçant, au potentiel remplaçant de Gizenga.
C'est légitime de la part de l'AMP qui ait des ambitions, mais j'ai entendu dire que les accords, c'est vrai, il y a des accords, et généralement, en République démocratique du Congo, les politiques congolais ne respectent que les mauvais accords. Les bons accords ne sont jamais respectés. J'ai entendu même les gens du Palou avoir des ambitions pour faire remplacer, alors que les gens du LAMP le disent clairement, c'était un accord post-électoral, on avait besoin de Gizenga.
Soit dit en passant, les habitants de Kikwit, hein, la base quand même, l'une des bases importantes de Gizenga, ne sont pas d'accord avec cette démission de leur leader.
Mais leur leader a dit qu'il était malade, je crois qu'il devrait se contenter de ça, et il n'y a que la base de Kikwit, comme vous dites là.
Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'ANT peut se permettre de se brouiller avec le Palou et perdre une partie de son soutien au niveau de l'Assemblée nationale, le Palou compte, je pense, plus ou moins 30 députés nationaux.
Oui, mais l'AMP, c'est pas la majorité au sein de l'AMP, c'est pas 30 députés près. Et quand on sait que
même quand les 30, ils vont garder la majorité au pouvoir.
Même quand les 30, ils gardent la majorité au pouvoir, sans compter que il y a des députés Palou qui commencent à tanguer aussi.
Merci beaucoup. On va conclure cette partie de l'émission avec vous, Henri Gérard Eguébé. Votre réaction par rapport au remplaçant futur d'Antoine Gizenga, vous voyez comment vous faites cette lecture?
Bon, nous le disions tout à l'heure, c'était des accords avant les élections, le deuxième tour, et bon, c'était les Palous qui devaient avoir la primature. Maintenant que le patriarche n'est plus, c'est tout à fait normal et légitime que les Palous se disent, bon, c'est nous qui devrions être là si on peut remplacer. Mais je crois qu'avoir des prêts, ce n'est pas forcément Palous. Je crois que dans la coalition, c'est question aussi de voir s'il y a ailleurs où l'on peut trouver quelqu'un qui puisse assumer avec satisfaction.
Mais ne faut-il pas que ce soit quelqu'un de l'ouest du pays pour faire équilibre à la tête des différentes institutions du pays?
Oui, bon, on l'a dit, parce que bon, si le président de l'Est et le premier ministre de l'Ouest, bon, ça dépend. Mais je crois que dans notre pays, ce n'est pas l'Est et l'Ouest. Évitons ces choses-là, trouvons des gens capables de diriger ce pays à la satisfaction de tout le monde.
Merci beaucoup.
Qu'ils soient tous de l'Est ou de l'Ouest, le problème ne se pose pas, c'est qu'elles sont des nationalistes pour le bien du Congo.
Nous passons directement à notre second thème. Le chef de l'État nommé mercredi dernier des maires, commissaires de district et leurs adjoints, des bourgmestres et leurs adjoints, ainsi que des administrateurs des territoires et leurs assistants. À part les nouveaux venus, quelques personnalités sont maintenues à leur poste, notamment dans certaines communes de la ville de Kinshasa. Mais qu'est-ce qui a motivé ces ordonnances présidentielles pendant que les élections locales profilent à l'horizon 2009? Le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Philippe Kabengele, répondait à notre confrère Jeff Ngoy.
Je crois que lorsque le chef décide sur une proposition du ministre de l'Intérieur et que le chef de l'État prend cette ordonnance-là, ça voudrait dire seulement que le gouvernement de la République a déjugé qu'à ce moment ici, il faut réarticuler les animateurs de l'administration, qu'il faudrait remettre de l'ordre, qu'il faudrait combler à certaines insuffisances. Donc, je ne pense pas que le temps soit l'objet de quelqu'un qui soit de l'extérieur et qui ne puisse pas faire une bonne évaluation. Je crois qu'il faut que nous comprenions bien. Les élections locales visent les entités décentralisées. Mais ces entités ne seront décentralisées qu'à la mesure où nous sommes en train de mettre en application toutes les lois sur la décentralisation. Mais actuellement, le pays, au jour le jour, il doit être administré. Se rend compte que là, ça ne va pas. Ici, il y a des failles. Là, il faut corriger. Il faudrait remettre l'ordre parce qu'il ne faut pas attendre les élections dans 6 mois, dans 1 année pour remettre l'ordre. C'est une réarticulation des animateurs de l'administration de manière à pouvoir obtenir l'efficience ou l'efficacité qui manquait quelque part. Ça est là.
Pour le groupe parlementaire de chrétiens démocrates de l'opposition, la coalition au pouvoir prépare une tricherie pour les élections municipales et locales prévues l'année prochaine à Kinshasa pour les députés nationaux Lumeya Doumalegi. La recommandation de l'Assemblée nationale prévoyant l'examen au cas par cas de la question territoriale n'a pas été respectée. On l'écoute.
La coalition au pouvoir prépare la grande tricherie au niveau des élections locales. C'est comme ça qu'ils cherchent à placer leur pion parce qu'ils savent que leur bilan est négatif. Ils ne pourront pas dire à la population pendant les 2 ans qu'ils sont au pouvoir ce qu'ils ont pu faire. Nous ne pouvons pas accepter qu'au moment où beaucoup de Congolais meurent au nord Kivu, le gouvernement a le temps de placer les pions à travers la République. La priorité aujourd'hui, c'est de payer les enseignants. La priorité aujourd'hui, c'est de faire face à Kounda Batoar. Nous, au niveau du groupe parlementaire des chrétiens démocrates, nous désapprouvons. Il existe une recommandation qu'en ce qui concerne la territoriale, qu'on aille cas par cas et qu'il n'y ait pas de nomination généralisée. Cette recommandation n'est pas prise en considération. Quand le premier ministre passera à l'Assemblée nationale, la question sera posée et nous allons sanctionner sévèrement le gouvernement.
Diana Gikoupa, tricherie pour les chrétiens démocrates, c'est-à-dire pour Lumeya, il est député national membre de l'opposition, et réactiver ou remettre de l'efficacité dans la territoriale, selon le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Quelle lecture faites-vous par rapport à ces nominations à quelques mois des élections?
Tout à fait. Si je peux partir à partir de cette déclaration du député, c'est pour vous dire jusqu'où le Congolais veut une chose et son contraire à la fois.
C'est-à-dire
le député Lumea, comme beaucoup d'autres députés, lorsqu'ils sont revenus de vacances parlementaires, tout ce qu'ils ont trouvé à la base, ils imputent ça au gouvernement. Voilà, là-bas, ça ne marche pas, c'est la faute du gouvernement. Mais lorsque le même gouvernement dit que, puisque ça ne marche pas, je mets de l'ordre, je mets des gens qui peuvent travailler selon la politique.
Il y a quelques mois des élections municipales.
Les députés n'ont pas dit que, puisqu'on doit attendre les dirigeants qui viendront des élections, et que ce qui se fait maintenant, on ne les impute pas au gouvernement. Alors, le gouvernement est rendu responsable de tout ce qui se passe à travers le pays, et on estime que ce gouvernement rendu responsable pour ça n'a pas le pouvoir de pouvoir organiser le pays comme il entend pour pouvoir que son action puisse réussir. C'est tout à fait contraire, c'est une chose de son contraire à la fois. Moi, je pense que même si les élections doivent avoir lieu dans un mois, et qu'avant un mois, puisqu'on voudrait que avant cela, qu'il y ait des résultats, on demande des résultats au gouvernement, et le gouvernement s'organise pour avoir des résultats. Voilà.
Merci beaucoup Diana. Benoît Tambéré, finalement, quelle lecture faites-vous par rapport à ces nominations quelques mois des élections locales, municipales, urbaines?
Ben, on peut aller dans deux sens, ou se dire que les élections locales n'auront plus lieu, et se poser la question de l'opportunité. Non. Quelle est l'opportunité aujourd'hui de changer les maires, les bourgmestres, si ce n'est peut-être pour combler le vide à certains endroits ou pour faire partir des têtes qui ne plaisent pas aux gens? Je regardais, par exemple, la liste des bourgmestres de la ville de Kinshasa. Vous savez que la ville de Kinshasa, que je connais très bien, hein, n'est-ce pas? Regardez ce qui ont été mis en place, maintenus ou changés. En dehors de Madame Meta Mbouyi, bourgmestre de la commune de Kasavubu à Kinshasa, je fais remarquer que la mise en place était une mise en place 1 plus 4, où il y avait des bourgmestres MLC, des bourgmestres RCD. Vous remarquerez que tous ceux qui ne sont pas, la plupart qui ne sont pas de l'obédience AMP, ont été balayés et remplacé discrètement par d'autres, en dehors de Madame...
Ça, c'est vous qui le dites, hein,
regardez la liste, en dehors de... Il y a Madame Makayabo, par exemple, de Bandal, je suis habitant de Bandal, qui est bourgmestre RCD, elle était certes suspendue, au-delà de la date d'ailleurs, bon, elle a été remplacée. En dehors de Madame Bébé Mouy, Bébé climatiseur, on peut vous citer le bourgmestre de la commune de Bumbu, qui est mais c'est notoirement connu, qui a été balayé. Bref, on voit que on peut se poser des questions de l'urgence et de l'opportunité de changer ces bourgmestres aujourd'hui, à la veille, comme vous avez dit, des élections locales. On ne pourrait pas attendre les élections locales pour que les choses se passent proprement.
Mais ça n'empêche pas d'organiser ces élections, à mon sens. Je ne sais pas.
Est-ce que ça empêche d'organiser ces élections,
ces nominations?
Mais pourquoi les élections ne sont pas organisées? On va dire qu'il manque des moyens. Est-ce qu'on a trouvé les moyens aujourd'hui pour les remplacer? Est-ce que maintenant où on n'a plus de moyens, on ne va plus les remplacer, quitte à combler le vide? On peut se poser plusieurs questions. La représentativité féminine, j'ai aussi regardé la liste. Pour la ville de Kinshasa, il n'y a que 3 femmes bourgmestres. La constitution dit non, il faut tenir compte du genre, de la parité et tout le reste.
Rapidement.
3 femmes bourgmestres et 4 femmes bourgmestres adjoints. Quelle est l'opportunité aujourd'hui de ces changements? Pourquoi aujourd'hui, alors que les élections pointent à l'horizon, à moins que les élections soient envoyées au calendrier grec?
Henri Gérard et Guébet, est-ce que vous partagez la même opinion que nos confrères ici au studio?
Oui, je partage l'opinion de Benoît tout à l'heure là. Donc, on s'est dit, est-ce que les élections municipales, urbaines, locales auront-elles lieu ou pas? Parce que c'est un signal, c'est comme qui dirait, non, c'est pour retarder ces élections ou qu'elles n'auront pas lieu. Avec ces nominations, on s'est dit, mais les élections ne pourraient peut-être pas avoir lieu. Mais en plus, c'est comme il disait, l'opportunité de ces élections. Quand on constate, je prends l'exemple de la ville de Mbandaka.
Oui.
Ce qui s'est passé, il faut se dire, non, qu'on a simplement fait en sorte que ceux qui sont de l'opposition soient partis. Parce qu'aujourd'hui, le maire de la ville de Mbandaka était du MLC. Mais il est remplacé par quelqu'un du PDC, une dame. Donc c'est de l'AMP. Quand nous prenons son adjoint, il est du PPRD. Quand nous prenons les deux communes de la ville de Mbandaka, la commune de Mbandaka par exemple, il y avait une dame qui était du RCD, mais qui est partie remplacée par quelqu'un du PPRD, de la commune de Wangata. C'est quelqu'un de l'UDMO. Donc on voit, c'est comme si l'AMP cherche à s'adjuger ses postes en perspective des prochaines élections. Y aura-t-il tricherie, tout ça? Et donc on se pose ce genre de questions. Pourquoi a-t-on procédé à ces nominations aujourd'hui, alors qu'on se préparait pour les élections? Ça nous surprend. On s'est dit, bon, est-ce que pas intéressé ce genre de nomination?
Merci beaucoup. À moins que Diana, vous n'ajoutiez en tête
une chose pour dire que les élections, comme le FNE, seront organisées par la commission électorale indépendante. Ce ne sera pas par la territoriale. Ça, c'est une crainte inutile. Et c'est pour dire aussi que lorsque ça ne marche pas à la base, c'est l'AMP, c'est la coalition au pouvoir qui est jugée. Là, on ne doit pas laisser 1 plus 4, alors que c'est le gouvernement actuel qui est jugé et la gestion est de 1 plus 4. C'est anormal. Ça ne pouvait même pas poser la question pour dire que c'est l'opportunité. L'opportunité, c'est qu'il faut avoir des gens qui puissent vous aider à réussir le mandat. C'est l'AMP qui a le mandat, ce n'est pas 1 plus 4.
Merci beaucoup Diana. Donc c'est par vous que nous concluons ce second thème. Nous passons directement à notre troisième et dernier thème. L'actualité cette semaine était aussi marquée par l'attaque des rebelles ougandais et les rats dans les territoires du Dungu dans la province orientale. Attaque qui s'est soldée par l'enlèvement de 100 écoliers et par quelques personnes tuées, mais le nombre des personnes tuées varie selon les sources. Conséquence de cette attaque, une vive tension a régné ce jeudi à Dungu, territoire situé à plus de 800 km au nord-est de Kisangani dans la province orientale. Une manifestation spontanée des élèves auxquels se sont joints des personnes adultes s'est transformée en un vrai mouvement de révolte. D'après des témoignages sur place, la résidence des observateurs militaires de la MONUC a été prise pour cible. La même source affirme que les manifestants se révoltent contre l'abandon des populations locales par les autorités du pays, abandon face notamment aux rebelles ougandais de la LRA. Notre confrère Jacques Moukonkole est à Kisangani dans la province orientale. Il nous en fait le point.
Plusieurs centaines de personnes sont descendues dans la rue cet avant-midi dans la cité des Dungu. D'après les témoins sur place, ce mouvement a entraîné dans un premier temps des élèves auxquels se sont ralliés des personnes adultes. Ils ont assiégé la résidence des observateurs militaires de la MONUC qu'ils ont pillé avant de mettre le feu sur un de leurs véhicules. Ce dernier est complètement calciné. Les manifestants se sont ensuite dirigés au bureau administratif du territoire, mais ils ont été repoussés par la police. Celle-ci a dû tirer en l'air pour les dissuader. On ne connaît pas pour l'instant l'organisateur de cette manifestation, qui est d'aucuns considèrent de spontanée. Quant à son mobile, le chef de chefferie Wando et le président de la société civile pensent que la population est animée d'un sentiment d'abandon par les autorités. Selon eux, celles-ci n'ont rien fait jusque-là pour les assister après les incursions de la LRA dans leur localité, ni retrouver les enfants qui ont été kidnappés. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Benoît Kambéré, votre lecture par rapport justement à cette attaque des LRA, je pense que ce n'est pas la première dans cette partie du pays. Il y a 100 écoliers qui ont été enlevés, l'UNICEF l'a confirmé et a entrepris même des démarches pour leur libération.
C'est, disons, un sentiment d'abandon, hein, et notre confrère de Kisangani l'a dit, la population se sent abandonnée. Et par le pouvoir central, la population est désespérée. Mais ce que je déplore, tout simplement, c'est que la population se sent abandonnée, parce que ce n'est pas seulement le premier cas, tu l'as dit, mais il y a aussi à côté les moraux. Personne n'en parle aujourd'hui, c'est quand ça va barder là-bas que... Moi, j'aurais bien voulu que des actions musclées du genre rétablissement de l'autorité de l'État au Bas-Congo, sur les Bundudia-Congo, se fassent également dans la province orientale, parce que, qu'on le veuille ou non, Dungu fait partie aussi de la République. Ce serait bien qu'on envoie des expéditions musclées, là aussi, pour faire partie de l'ENRA, pourquoi pas, pour mater les Mbororo, pourquoi pas. Ce serait bien que la population se sente aussi protégée, ne se sente pas abandonnée. Mais ce que je déplore de la part de la population, c'est qu'elle trouve comme bouc émissaire les observateurs de la MONUC, comme si le boulot
des observateurs de la MONUC, c'était de s'occuper d'eux à la place du gouvernement. Ça, je trouve malveillant et peut-être pas très responsable.
Merci beaucoup. Henri, Gérard et Guébé, vous intervenez à partir de Mbandaka dans la province orientale. Vous êtes rédacteur en chef de la RTNC Mbandaka dans la province de l'Équateur. Excusez-moi, quelle est votre lecture par rapport à cette insécurité de Elera?
C'est bien triste et souvent quand je dis ça fait mal au cœur quand nous constatons que notre pays, il y a des voisins qui se permettent de faire des inquiétudes malmenées, tuer les gens, emporter des jeunes enfants et tout ça. Et le gouvernement, est-ce que nous avons un gouvernement, un État qui doit se respecter? Je dis non, là ça fait mal et nous pensons que, je l'ai dit depuis ces mois, nous avons parlé depuis ce qui se passe à l'Est et on se dit non, est-ce que nous avons une armée ou pas? Parce que c'est le gouvernement qui doit s'assumer. Comment comprendre que nos voisins se permettent? Il n'y a pas que le cas de Dungu. Même ici, chez nous, à l'Équateur, vous imaginez les centrafricains qui traversent au nord, là-bas, vers Mobaye, ici, dans les territoires, ils pourchassent les chasseurs, ils prennent les poissons, ils emportent les filets, les pirogues, et
Henri,
nous, on ne fait plus rien.
Henri Gérard, oui. Nous avons une frontière que nous partageons avec 9 pays voisins. S'il est possible de mettre un soldat vraiment à chaque mètre dans cette frontière?
C'est pas ce que j'ai dit, mais nous devons quand même être sécurisés. Ce n'est pas parce que nous devons mettre un soldat, mais il faudrait que nos frontières soient quand même sécurisées.
Merci, on vous a compris.
Oui, c'est ça que je voulais dire. On constate que c'est un peu partout, et là, la situation qui s'est passée à Dungu, ça préoccupe, et nous pensons que le gouvernement doit avoir une vision globale de la situation sécuritaire du pays.
Merci.
La situation est plus portée vers l'Est, et on oublie que le Congo est vaste, il faut aussi sécuriser les autres parties du pays. C'est le cas de Dungu aujourd'hui, et notre ami parlait même de Mbororo qui sont arrivés, qui se sont installés, et nous laissons faire.
Merci beaucoup. Merci Joachim Diana Gikouba, vous êtes journaliste au desk politique du quotidien L'Avenir, proche de la majorité au pouvoir. Votre réaction, le MSC a fait sa déclaration, une déclaration le 15 septembre dernier, en disant que finalement les frontières congolaises sont devenues poreuses, où n'importe qui peut venir faire n'importe quoi et puis s'en aller sans crainte d'être puni.
Tout à fait, parce que en fait, il y a les frontières qui posent problème. Ce sont les frontières où il y a de régimes militaristes, où il n'y a pratiquement pas de démocratie. Et c'est sur ce point-là que j'estime que le Congo a sans doute une responsabilité à prendre. La population congolaise, où qu'elle se trouve, a besoin d'être sécurisée et sécurisée avant tout par son gouvernement. Il arrive malheureusement en ce qui concerne par exemple les Mbororo ou les Elera. Il aurait suffi un jour que le gouvernement congolais attache des militaires à sa frontière et c'est tout le monde qui crie et aujourd'hui la guerre à l'Est, on donne comme prétexte quoi que le gouvernement a multiplié sa présence à l'Est et le voisin se sentant sécurisé et son chien de chasse, le SNDP, s'est mis à envoyer et à mordre. Bon, c'est pour vous dire que en ce qui concerne les Mbororo, vous vous souvenez par exemple qu'une fois, le gouvernement avait pris la résolution de les chasser. Il y a eu tous ces pays qui, et il y a les organismes des droits de l'homme qui disent que. Mais je pense que le gouvernement doit cesser d'écouter la communauté internationale et se prendre en charge.
Merci beaucoup. L'insécurité, ce n'est pas simplement dans la province orientale, mais c'est aussi au nord Kivu, comme c'est devenu une habitude ces derniers temps. Il y a encore eu des affrontements, même aujourd'hui, notamment dans la localité de Kabizo, à 60 km de Goma. Mais selon le ministre d'État Denis Talumé, le processus visant à mettre en œuvre le plan de désengagement déjà commencé, ce plan comporte deux phases, la phase de convaincre et la phase de contraindre, et qu'il n'y a pas de solution en dehors du programme Amani. Il a fait cette déclaration au cours de la réunion qui a eu lieu mardi dernier à Bukavu au sud Kivu, quant au sein de DP par la voix de Bertrand Bissimois, le porte-parole de son bureau politique. Le sein de DP réaffirme sa demande de discuter le plan de désengagement directement avec le gouvernement dans un cadre autre que celui du programme Amani et dans un endroit sécurisé. Bertrand Bissimois estime que si le gouvernement refuse et opte pour la contrainte, le CNDP continuera à s'opposer à cette façon de faire les choses. On l'écoute au téléphone de notre confrère Guy Roger Niampala.
Le plan de désengagement qui a été proposé par la MONUC n'est pas une imposition au parti. Le parti y adhère librement et il exécute de bonne foi. Il est discuté entre les partis concernés.
Vous avez suivi deux options, convaincre et contraindre.
Et évidemment, ce genre de contraintes dont on a parlé à Bukavu nous rappelle l'affaire Bemba, nous rappelle le bout du Diakongo. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus important, c'est des discussions. Il faut qu'on discute, il faut qu'on se parle, il faut qu'on accepte. Nous proposons que nous puissions le discuter dans un nouveau cadre. Si le gouvernement refuse le nouveau cadre, si cela est le cas, il aura tout notre peuple contre lui, je veux dire, et le CNDP continuera également à s'opposer carrément à cette façon de voir. Et même s'il a gagné les élections, et ces élections-là lui confèrent une légitimité, je veux dire, électorale. Mais il doit savoir qu'il est lié également par les respects des engagements qu'il a pris vis-à-vis de la population. La légitimité comme la vôtre aujourd'hui n'est pas un chèque à blanc.
Voilà, en 30 secondes, Benoît Tambéré.
Il y en a marre, tout simplement. Arrêtons de nous affronter. Ceux qui meurent, ce sont des Congolais. Ceux qui se déplacent, ce sont des Congolais. Et malheureusement, le petit peuple. Arrêtons.
Henri Gérard Guédé, en 30 secondes.
Je ne sais pas, c'est un dialogue de sourds parce que les CNDP disent autre chose, les gouvernements pensent autre chose. Bon, la solution, on pense que c'est la monnaie qui doit contraindre, mais il ne faut pas que le gouvernement se cache de la monnaie, tout dit que non, c'est la monnaie qui doit faire ceci, le gouvernement doit s'assumer.
Merci. Avec vous.
Tout à fait, c'est pour montrer que le CNDP, on ne peut pas faire confiance au CNDP, le CNDP n'a pas de parole et il n'a pas négocié, continué à négocier avec le CNDP. Ce qu'il faut, c'est s'organiser pour faire la guerre au CNDP, le bouter dehors, c'est tout.
Merci beaucoup, c'est par vos propos que nous terminons cette émission. À la technique, il y avait Alain Goy, à la réalisation d'Iroger Niampala. Merci pour toute l'équipe des dialogues entre Congolais, Titi Mboutou, Jean-Didier Gobagné, qui ont concouru à sa préparation. Merci et bon week-end à tous.
Oh, Katrin, oh, Katrin.